du Trizac. Un animateur pas comme les autres. Cube Radio.
C'est quoi, là? 22 mois, 23 mois, c'est plus 22, là. Pas loin de 20, tu sais, on s'approche après. Presque deux ans de pandémie, de coronavirus, de mauvaises nouvelles, de quelques bonnes nouvelles, mais on revient en arrière. C'est cette fatigue pandémique. Puis je me demandais si c'est réel ou si c'est juste un terme là, utilisé par les médias. On a avec nous la présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groulx. Madame Groulx, bonjour.
Bonjour, Monsieur Dutrizac.
D'abord, croyez-vous à ce terme-là, est-ce qu'il est véridique? Puis qu'est-ce qu'on doit comprendre par fatigue pandémique?
Oui, c'est un terme que j'utilise moi-même souvent. Alors oui, j'y crois. C'est un terme qui est très englobant. Hein? Vous trouverez pas ça dans les manuels diagnostiques en santé mentale.
Non.
Mais ça englobe beaucoup de choses. Ce que ça veut dire, ni plus ni moins, c'est, puis vous l'avez bien mentionné, ça fait 22 mois qu'on est toujours un petit peu en hypervigilance. Donc, on a eu au départ peur de tomber gravement malade, peur de mourir. On s'est serré les coudes, on a lavé notre épicerie, on a fait la ligne devant l'épicerie. On est sorti un petit peu l'été, on a pensé de sauver l'automne, on n'a pas échappé à la deuxième vague, on a échappé à la troisième vague. Il y a des gens qui ont perdu des gens, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Mmh. Bref, ça a été beaucoup plus long puis beaucoup plus imprévisible que ce qu'on pensait. Et là, ça fait 22 mois qu'on est toujours vigilant et qu'on a tout fait. On a tout fait comme il faut. Et à Noël, on espérait avoir un Noël plus festif. Puis malheureusement, il y a une nouvelle vague qui est arrivée avec un variant plus contagieux, moins dangereux, mais plus contagieux. Alors, ça introduit une espèce de découragement puis une certaine irritabilité chez les gens aussi. Alors, la fatigue pandémique, c'est ni plus ni moins le cerveau qui est fatigué d'être en hyper-vigilance tout le temps. Et on est passé, évidemment, par une augmentation des éléments anxieux qui était bien normale, par une augmentation des éléments dépressifs pour certains qui était bien normale, parce qu'on était privé de nos exutoires. Puis là, on arrive à... C'est comme si ça faisait des mois qu'on courait, puis quelle que soit la réserve qu'on a au départ, je veux dire, on va finir par se fatiguer. Mmh. Et quand le cerveau se fatigue, il réfléchit pas de la même façon.
Est-ce que diriez-vous, Mme Groulx, que cette fatigue pandémique, là, ce sentiment-là, est plus fort chez ceux et celles qui ont suivi les consignes sanitaires, qui ont tout fait, qui ont eu les trois vaccins, puis s'il y en avait huit, ils seraient allés, que chez ceux qui ont dit, moi, je m'en occupe pas, puis les non-vaccinés, puis qui passent à côté?
Mais je pense que personne n'y échappe parce que, vous savez, on a tous un niveau de réserve psychologique, puis un niveau de santé au départ, puis on a tous un niveau de résilience, puis ça, c'est une variable qui va faire qu'on va être plus fatigué ou pas. Mmh. Mais on vit tous la pandémie dans des contextes différents. Il y en a qui l'ont plus difficile que d'autres. Là. Si on pense, par exemple, aux restaurateurs ou aux gens qui
subissent,
doivent s'adapter.
Ouais.
Ben oui. Puis on n'est pas dans le même contexte psychosocial non plus. On n'a pas tous le même soutien, le même support. Alors, tout ça, tu sais, ceux qui ont des jeunes enfants à la maison, qui sont en télétravail, puis qui sont presque constamment avec leurs enfants, qui n'ont pas de répit, le vivent différemment. Alors, tout ça, c'est des variables qui vont faire qu'on va être plus fatigué que d'autres, mais on est tous fatigués à un certain degré. Puis, à un moment donné, quand tu deviens trop fatigué, les gens qui vivent beaucoup d'adversité, là, dans un court laps de temps,
ouais.
Tu sais, si vous perdez votre emploi, que vous avez une chimiothérapie, que vous avez des tensions avec vos proches, mais accumulez là, de l'adversité, ben, à un moment donné, ça prend plus grand-chose pour nous jeter au tapis. Hmm. Alors, c'est un petit peu ça qui se passe dans la perception des gens actuellement.
Est-ce qu'on peut parler aussi des conséquences des faux espoirs, des déconfinements, des reconfinements, des promesses, la lumière au bout du tunnel, puis finalement, c'est un train, puis c'est pas le coyote qui s'en vient manger, le roadrunner, tu sais, c'est comme ces images-là qu'on s'est données, là, avec beaucoup d'espoir, puis qu'on a échappé, là, au cours des mois. Est-ce que cette fatigue pandémique-là est plus présente?
Mais elle est très présente parce que quand vous parlez de la lumière au bout du tunnel, c'est un très bel exemple parce que la lumière, elle est au bout du tunnel, puis on est pas mal plus proche de la lumière qu'on était il y a 18 mois, il y a 20 mois, il y a 10 mois. Cela dit, on n'est plus capable d'y croire. Et c'est là où, à un moment donné, quand la charge émotive est trop grande, puis la fatigue du cerveau est trop grande, ben on dirait qu'on perd le recul puis la perspective. Et cela dit, je pense que les gens sont aussi fatigués des contraintes et ont l'impression que... Puis c'est là où tu perds la perspective, c'est-à-dire que tu finis par avoir l'impression que ça donne rien alors que ça a donné quelque chose. Mm-hmm. Parce que ce qu'on perd de vue, c'est où est-ce qu'on serait si on n'avait pas fait ça, et ça, on le sait pas, mais on sait que ça serait pire.
C'est comme l'impression, Mme Grou, tu sais, dans les cauchemars, là, où on a l'impression, dans ce cas-là, le tunnel se rallonge sans arrêt, là. Que t'es près de l'objectif, puis dès que tu fais des pas additionnels, le tunnel se rallonge. C'est comme si on tarde à atteindre l'objectif.
Ben, c'est ça. Je pense que l'image qui me vient, c'est quand tu cours un marathon, puis t'arrives au 42e, puis qu'on te pousse ça au 43e kilomètre, puis après ça au 44e. Ouais. T'as beau en avoir couru 42, ces deux derniers qui sont interminables. Mm. Et quand tu deviens trop fatigué, ben tu dis non, j'en peux plus, je vais arrêter de courir. Et c'est un petit peu ça l'analogie qui me vient. Mais tu sais, c'est difficile d'avoir le recul puis la perspective de regarder les choses avec objectivité. Et c'est comme si c'est là où notre cerveau nous joue des tours parce que on devient tellement fatigué que on perd justement cette perspective-là, cette tolérance-là.
Est-ce qu'on peut en vouloir à ceux et celles qui n'ont pas fait autant d'efforts, tu sais, à nos yeux, que nous-mêmes, là, en fonction du respect des mesures sanitaires? Parce que ça a brisé des amitiés, puis ça a brisé des familles aussi.
Ça a brisé, oh, puis tout à fait. Et ça, c'est bien triste. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense sur le plan psychologique. C'est-à-dire que les gens n'ont pas tous la même perception de la population. Ils n'ont pas tous la même compréhension de l'information. On n'est pas nécessairement tous à la même heure non plus dans la façon dont on métabolise cette information-là. Je pense qu'il faut se rappeler que la tolérance, il faut aussi penser à la santé sociale. Puis la tolérance puis l'indulgence, c'est des facteurs de protection qu'on a besoin actuellement. Mais malheureusement, c'est de plus en plus difficile parce qu'on est plus fatigué. Mais c'est tellement important parce que si on devient trop intolérant, aux difficultés qu'on a vont s'ajouter des pertes, des ruptures, il y en a déjà, vont s'ajouter des problèmes de santé sociale, puis il faut faire attention. Parce qu'aussi difficile que ce soit d'être tolérant avec les gens qui pensent différemment, je pense que ça reste nécessaire.
Mmh. Qu'est-ce qu'on fait, là? Parce que comment on fait pour réduire cette fatigue pandémique, là? Est-ce qu'il y a des trucs, selon vous, Mme Grou?
Il y a beaucoup de trucs, mais ils sont de plus en plus difficiles à appliquer, mais je vais les donner pareil.
Oui.
Un premier, c'est de ne pas être surexposé à l'information, parce que ça finit par être déprimant.
Ah, mais c'est pas bon pour nous, ça, là. Vous m'aidez pas, là, quand vous dites ça, là. Vous les envoyez écouter de la musique dans d'autres stations?
Non.
Je comprends.
L'information, je parle vraiment de la situation pandémique.
Ouais.
Et donc, ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur, c'est d'être capable de faire la distinction entre on n'a pas de contrôle sur la situation sanitaire, mais on en a sur la façon d'organiser nos journées. Alors, faut être capable de se demander qu'est-ce que j'ai envie de faire, puis qu'est-ce qui me ferait du bien. Il y a de moins en moins de choses actuellement qu'on peut faire, mais il faut être capable, dans le contexte de ce qui nous reste, de se faire indulgence, puis de dire, je vais essayer d'avoir du plaisir, puis je vais essayer de me reposer, de soigner mon sommeil, de soigner les relations qui comptent pour moi, d'être là pour les autres, puis de parler aux autres, plutôt que de me rouler en boule, puis de m'isoler. Et ça, c'est très important. Puis, tu sais, la chose qui reste importante, c'est de reviser les objectifs. Parce que si, par exemple, t'as un jeune parent, que t'as des objectifs professionnels, que t'es en télétravail, que t'arrêtes jamais, puis que tes jeunes enfants sont pas à la garderie parce que, justement, il y a un foyer d'infection, tu vas venir fou. Donc, il faut reviser les objectifs puis être un petit peu plus intelligent puis se dire, ben déjà, rester en bonne santé mentale puis en bonne santé physique actuellement, là, c'est déjà un objectif extrêmement louable pour être capable d'en sortir adéquatement.
Avez-vous l'impression qu'on sous-estime cette pandémie sur les enfants, là, sur tout ce que vous venez d'énumérer, là, l'intolérance, la patience, l'ouverture à l'autre? Pensez-vous que ça va avoir des effets à long terme?
Oui, puis moi, je le pense depuis le début. Je pense que les effets de la pandémie sur la santé mentale vont durer bien plus longtemps que la contagion elle-même. Puis je pense qu'on sous-estime effectivement l'impact que ça a actuellement à ce stade-ci sur la santé mentale de la population. Parce que c'est comme une pandémie parallèle qui est plus silencieuse. Ça veut pas dire que tout le monde va tomber malade, mm-hmm. mais ça veut dire qu'il y a plus de gens en détresse, qu'il y a plus de gens mal en point. Et puis je pense qu'on voit la pointe de l'iceberg, mais il faut pas sous-estimer les efforts qu'il va falloir mettre rapidement pour s'en occuper.
Savez-vous s'il y a des gens qui consultent présentement à cause de la COVID, à cause de cette pandémie?
Il y en a énormément et il y a même une explosion. J'ai jamais vu ça, moi, les cabinets de l'ensemble des professionnels, par exemple, qui donnent des services de psychothérapie, puis des cabinets privés de psychologues qui ont plus de place, un service de référence qui est saturé. Fait que moi, j'ai le pouls parce que je le vois que les gens nous appellent presque quotidiennement pour nous dire, écoutez, je cherche à consulter, aidez-moi à trouver quelqu'un. Puis les psychologues souffrent de pas pouvoir faire de la place parce qu'il y a beaucoup plus de consultations en urgence, beaucoup de gens qui reviennent en consultation, beaucoup de gens en détresse plus importante qui veulent pas attendre.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Et quand on débarque dans le bureau du psy, qu'est-ce qu'on dit?
Ça dépend, il y a énormément de cas de facteurs. Au premier chef, ce qu'on observe le plus, évidemment, c'est une anxiété normale qui s'est transformée en trouble anxieux ou en anxiété qui devient paralysante. Ensuite, c'est les éléments dépressifs, les tensions relationnelles, puis ça s'explique très bien parce que je dirais 100% du temps avec tes enfants, tes ados ou avec ton mari, puis pas s'entendre surtout ou pas avoir dans un contexte où la charge émotive monte, mm-hmm. C'est sûr que c'est pas simple. Il y a plus de consommation, il y a plus de difficultés de tous ordres, il y a évidemment plus de difficultés de régulation des humeurs, hein? C'est-à-dire que les gens sont moins tolérants, donc sont un petit peu plus explosifs, puis il y a un petit peu plus de radicalisation des idées aussi parce que, puis on le voit de toute façon sociétalement, parce que justement les cerveaux sont fatigués. Alors il y a des problèmes évidemment là, tu sais, de violence conjugale, de rupture amoureuse, etc., etc. Ouais. Alors c'est très variable.
Bon, écoutez, cette fatigue pandémique, donc on prend ça au sérieux, on prend soin de nous, hein, on prend soin des autres pour cette sortie de tunnel qui se rallonge là. On dirait que c'est le troisième lien là qui est pas creusé encore là, puis on est dedans. Faut
prendre
pas lâcher.
Prendre soin de nous et prendre soin des autres, Monsieur Dutrisac, là, c'est des paroles que vous venez de dire qui sont très sages.
Ah ben c'est gentil, je vais le prendre pour les fois que ça arrive. Présidente de l'Ordre des psychologues du Québec, Christine Groulx, un grand plaisir, merci à vous.
Au revoir, merci.